L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « Tu ne tueras point ». Et nous avons toujours comme invité Pacheli Mabedi. Bonjour Pacheli.
Bonjour frère Raphaël.
Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter Pacheli à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions.
Père éternel, nous te disons merci pour ces instants. Laisse que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous enseignes et que tu nous orientes en ce matin. Au nom de Jésus, Amen.
Amen. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 4.
Exode 20, verset 13.
Pardon, Exode 20, verset 13. Tu ne tueras point. D'autres versions disent, tu ne commettras point de meurtre. Pacheli, que peux-tu nous dire aujourd'hui de la part de Dieu sur ce sujet de ne pas commettre de meurtre?
Nous allons, avant d'évoluer, rappeler à nos auditeurs que tu ne commettras pas de meurtre est défini comme un geste ou une action d'ôter la vie à un autre de manière programmée ou de manière planifiée.
Une planification pour retirer la vie à quelqu'un.
Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous asseoir un peu sur le livre de 2 Samuel 11, à partir du premier verset, jusqu'au 15e verset.
Je vais lire 2 Samuel 11, verset 1 jusqu'à 15. L'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hessien? Et David envoya déjà des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Hessien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale, il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous ses serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne, et moi j'entrerai dans la maison pour manger, boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je t'enverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre.
Après ce long récit, j'aimerais que nous puissions voir déjà à partir, toujours dans le livre de Samuel, à partir du verset Samuel 11, 2 Samuel 11, à partir du verset 2, où il est dit, « Or, le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait, et cette femme était très belle. C'est à partir déjà de cet acte ou de ce regard que David avait eu à lancer sur l'épouse d'Uri, que ce désir de commettre le meurtre, je peux dire, avait déjà eu à avoir des bases. Parce que avant même d'aller plus loin, avant même qu'il n'y ait l'acte qui va pousser David à mettre Uri sur la première ligne de champ de bataille pour que celui-ci soit frappé par l'épée, David a eu à désirer la femme d'un autre. David a eu à convoiter l'épouse d'un autre. Dans la Bible, si nous allons surtout dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a plusieurs passages où l'Éternel est en train de tirer comme une sonnette d'alarme vers nous en nous disant d'éviter ces choses. Parce que si nous lisons dans le livre de Matthieu 5, au verset 28, il nous est dit, j'ai lu au nom du Seigneur, « Eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette un regard chargé de désirs, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Voilà déjà ce qui s'était déjà manigancé ou qui avait déjà pris de la place dans le cœur de David.
D'accord. C'est très intéressant. J'aimerais relire dans Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce que tu dis sur l'histoire de David et Uri est très profond. Ça me fait réfléchir. Effectivement, tu vois, comme on a dit, comme on discutait même avant qu'on enregistre, on ne tue pas seulement physiquement, mais on peut tuer aussi par le regard, on peut tuer aussi dans le cœur. David a convoité une femme. Non, David a d'abord regardé une femme. Okay. Ah, elle est belle. Il pose la question, qui est-elle? On lui dit, c'est une femme mariée. Ah, ça n'a rien à voir. Je veux cette femme. En fait, déjà là, dans son cœur, il est en train de tuer Uri. Parce que quel est cet homme marié qui aimerait qu'un autre homme que lui puisse connaître sexuellement sa femme? C'est déjà une femme, c'est déjà une forme de meurtre. C'est déjà le tuer. La Bible dit, je crois que c'est dans le livre des Proverbes, il dit que la jalousie d'un homme, c'est trop fort. Il n'y a aucun cadeau qu'on puisse donner pour l'apaiser. Avant qu'il tue Uri physiquement, il a commencé par le tuer dans son cœur. Et malheureusement pour David, si je puis me permettre de dire ça comme ça, dès qu'il a connu Bathsheba, elle est tombée enceinte. Alors il a commencé maintenant à manigancer une histoire pour couvrir cette grossesse. Il fait venir le gars, il le fait boire, il lui donne des présents, mais le gars dit non, moi je vais rester près de toi. Et si je dois faire quelque chose, c'est seulement aller combattre. Ok, on lui fait une lettre, le gars va au combat et il va être tué.
Et toutes ces choses ou toutes ces actions menées par le roi David, ce sont des actions qui ont été menées en secret. Ça veut dire, quand il s'est renseigné si cette femme était la femme de qui, elle l'a fait de manière secrète. Ça veut dire, déjà, à la cour royale de David, il y avait des agents des renseignements qui pouvaient lui dire précisément si c'était l'épouse de qui.
Donc,
il a eu le temps de se nourrir des informations. Mais si nous rentrons un peu plus loin dans l'histoire d'Abraham, avec son épouse Sarah, si je ne me trompe, ils sont allés sur une terre étrangère,
l'Égypte.
Arrivés là-bas, le roi qui avait convoité la femme d'Abraham s'était fâché contre Abraham. Pourquoi? Parce que celui-ci lui avait dit que c'était sa sœur. Alors il avait pensé normal qu'il pouvait aller avec cette intention jusqu'au bout. Mais nous aimons à l'ordre que Dieu a eu à donner au roi au travers d'un songe où c'était tellement clair qu'il a eu à parler de manière très dure à Abraham, lui disant que tu as failli me faire commettre un délit très grave. Par le regard, ce roi avait apprécié ou avait admiré l'épouse d'Abraham. Mais je dirais, Dieu merci pour lui, avant de commettre le délit, il a été rappelé à l'ordre. Mais un autre élément m'a touché aussi, c'est que, toujours dans le secret, lorsque le roi David a commis cet acte, Dans le même secret, cette femme viendra lui faire savoir que après cet acte d'union, même si on le dit quelque part dans, toujours dans le livre de Samuel, qu'il s'était purifié, cela n'a pas exclu qu'il y ait des conséquences après l'acte qu'il avait eu à composer.
Comme pour nous dire que on peut demander pardon à Dieu, mais les conséquences vont suivre. Il faut vraiment qu'on fasse très attention. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment, vous êtes en train de parler. Et quand on tue quelqu'un, on ne tue pas forcément physiquement. On peut tuer quelqu'un par les paroles. Tu voulais dire quelque chose, frère?
Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Dans le livre de Galates 6, au verset 7, il nous est dit « Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. »
Tout à fait. Dans le livre de Proverbes, on nous dit que celui qui parle légèrement, en fait, est en train de blesser. Tu imagines si on te blesse chaque jour, chaque jour, chaque jour. Cette action peut mener à la mort. Ça peut être une mort, toujours, on peut dire une mort spirituelle ou une mort psychologique, pas forcément une mort physique. Mais Dieu condamne. Et Dieu dit, on ne se moque pas de lui, ce qu'un homme a semé, il va le moissonner. La manière dont nous traitons les autres, Dieu va permettre qu'on nous traite de cette manière-là. Si David a tué un homme, la Bible nous dit, dans le livre de Samuel, lorsqu'il va parler avec le prophète Nathan, David va voir cinq personnes, nous que disent les gens de ce monde. Tout se paye ici-bas. Peut-être que vous en êtes pas encore arrivé au point de dépasser l'infranchissable. Voilà pourquoi Dieu permet que vous écoutiez cette émission aujourd'hui, pour que vous puissiez arrêter cette vie de folie, de sortir avec des femmes mariées, de sortir avec des femmes qui ne sont pas vos épouses. Parce qu'en fait, d'une manière voilée, vous êtes en train de commettre un meurtre.
Pour renchérir cela, je continue dans Galates 6, au verset 8, il est dit « Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. »
D'accord. Revenons au texte que nous sommes en train de lire de 2 Samuel, pour parler de la planification. À partir du verset 14, 2 Samuel 11, verset 14. David, ayant essayé toutes les manigances possibles pour faire que Uri aille connaître sa femme et puis qu'il dise « c'est pas moi, c'est l'enfant de Uri ». Ça marche pas. Alors il nous est dit au verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main de Uri. Voilà comment commence la planification. Donc il a échoué tous les autres plans, il dit « bon, il n'y a rien à faire, il faut le tuer ». Où a-t-il eu cette idée? En tout cas, la source, c'est Satan. Parce que Satan est un voleur, est un meurtrier, est un destructeur. Est-ce que Satan a parlé à David au travers d'un homme? On ne sait pas. Mais n'est-il que David a pris cette décision d'écrire une lettre à Joab? Il écrivit dans cette lettre « Place Uri au plus fort du combat et qu'il meure ». Joab assiégeait la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il avait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville furent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hessien fut aussi tué. C'est un meurtre.
Uri est tout simplement victime d'un complot que David lui-même a manigancé dès le départ en convoitant sa femme. Après qu'il ait appris que l'épouse de Uri était enceinte, il s'est dit « je veux trouver des stratagèmes pour faire porter cette grossesse à Uri ». Il a organisé un banquet, ils ont fait boire et Uri faisait partie de ceux qui ont bu ce soir-là. Mais Uri s'est rendu compte que les vaillants soldats de l'armée d'Israël étaient en guerre. Et pour lui, il a trouvé que c'était noble de ne pas se retrouver chez lui en train de dormir, que de se reposer peut-être avec les militaires de la garde royale, et que le matin, lorsqu'il aura repris ses forces et rentré le champ de bataille, pour aller prêter main forte à l'armée d'Israël qui était en train de combattre au front, le roi lui remet une lettre de mort.
Tout à fait.
Et la lettre que le roi lui avait remis comportait un sceau royal.
Tout à fait.
Que seul l'officier qui se trouvait au front qui pouvait ouvrir cette lettre et entrer en connaissance, lui, la lettre avant que ceci n'arrive entre les mains
de Joab,
l'officier qui était au front, peut-être il allait être au courant de ce qui était manigancé. Mais ce que j'aime chez ce soldat est que il a d'abord gardé son esprit de discipline en tant que serviteur dans l'armée d'Israël. Il a tenu bon jusqu'au point d'amener cette lettre qu'il a amenée à ce qu'on les place en ligne de mire pour qu'ils soient exécutés.
Et c'est une manière de dire que parmi les plus fidèles soldats de David, à cause de sa convoitise de la chair, à cause de cet esprit meurtrier qu'il a saisi, David a perdu un serviteur fidèle. Est-ce que tu t'imagines, Pacelli, que dans certaines entreprises, il y a des qui auraient pu faire progresser l'entreprise, qui auraient pu faire progresser la nation, qui auraient pu faire progresser les églises, mais parce que les responsables de ces organismes se sont laissés influencer par le péché, des hommes fidèles qui auraient pu les aider à avancer se sont retirés d'eux. Dans ce cas ici, c'est vrai que c'est David qui le tue, mais dans d'autres cas, ça peut être des gens qui se retirent. Parce qu'en fait, quand on les critique, parce qu'en fait, quand on les calomnie, à cause d'une convoitise, en fait, on est en train de commettre un meurtre. Nous devons faire très attention. Vous qui êtes en train de nous écouter, peut-être que vous occupez des postes politiques, des postes haut rang dans la société, peu importe le pays. Comprenez, mon frère, comprenez, ma sœur, que Dieu a placé autour de vous des hommes et des femmes qui vont par le péché. Vous allez commettre des meurtres. Vous allez planifier l'élimination et la destruction de vos plus fidèles soldats. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça, Pacelli. C'est quelque chose de grave. Ça peut être un père de famille qui, à cause des convoitises de la chair, à cause de l'orgueil de la vie, des plaisirs de la vie, va tuer ses propres enfants. Mais je connais des histoires de parents comme ça, qui, parce que ils veulent voyager dans le monde, ils veulent être vus dans la grande société comme étant des gens bien habillés, ils sacrifient le bonheur de leurs propres enfants. Leurs enfants étudient dans de mauvaises conditions, mais l'essentiel pour lui est d'être bien vu, d'être bien habillé. Bon, on n'est pas contre le fait d'être bien habillé. Je ne suis pas contre. Mais je me dis, est-ce que ça vaut la peine de sacrifier l'avenir de son enfant pour juste acheter un vêtement qui coûte 150, 200 dollars, 300 euros et être bien vu dans la société? Je ne crois pas. Mais pourtant, il y a des David de ce style-là qui tuent leurs soldats pour leur propre plaisir.
Dans Matthieu 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, là, nous voyons, j'aimerais que le frère Raphaël puisse nous lire cela. Matthieu 5, à partir du verset 13 à 16.
13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
J'aime ce passage parce que le roi David est un modèle pour Israël. Le roi David n'est pas seulement un modèle pour Israël en tant que roi, mais aussi en tant que vaillant soldat.
Tout à fait.
Le roi David, si on parlerait de lui comme étant le seul, on se rend compte que si ce roi perd ses qualités, Israël est voué à l'échec ou à la destruction. Alors, ce roi qui est aussi lumière venait à perdre cette vertu qui est de propager la lumière tout autour de lui, Israël se retrouverait totalement dans le noir. C'est pourquoi, lorsque c'est que le roi avait fait en cachette dans le livre de Samuel, va sortir au grand jour, cela va le rattraper quelques années plus tard. Lorsque son propre fils va aller avec l'une des épouses de son père David.
C'est exactement vrai. Tu sais, ça me fait penser qu'en fait, nous avons une très grande responsabilité. Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Tu sais que le sel a comme propriété d'empêcher la corruption.
Amen.
De préserver les choses. Le sel a comme propriété de donner de la saveur à l'alimentation.
Amen.
La lumière a comme propriété de faire permettre aux gens de distinguer les objets dans une pièce. Alors, si nous succombons au meurtre, ça veut dire que je suis dans ma chambre à coucher, je planifie de tuer ma femme, je planifie de tuer Pacheli, je planifie de tuer X ou Y, et pas forcément physiquement, mais même émotionnellement, et même psychologiquement. Nous sommes déjà contre la volonté de Dieu. Et ça fera qu'on va perdre nos propriétés spirituelles. C'est vraiment quelque chose de très important. J'espère que nous sommes en train de prendre conscience de ça, que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne devenons pas importants parce que nous sommes président de la République. Nous ne devenons pas importants parce que nous sommes premier ministre.
Mais...
combien il y a eu de coups d'État, de meurtres? Mais regardez la vie de ces hommes et de ces femmes. Comment ces personnes ont fini leur vie? Comment leurs enfants ont fini leur vie? Parce que comme tu l'as dit, ça finit toujours par rattraper. Bon, le temps est venu aujourd'hui d'abandonner cette vie de meurtre. Que ce soit l'avortement, que ce soit les calomnies, que ce soit les ragots, que ce soit les mensonges. En fait, ce sont des instruments que le diable met entre nos mains pour tuer nos prochains. C'est très important, Pacheli. Je crois que c'était cette semaine-ci, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de me dire, on doit apprendre à distinguer l'homme, on doit apprendre à distinguer l'homme des esprits qui les influencent. C'est un homme qui ment est sous l'influence d'un esprit de mensonge.
Amen.
Un homme qui vit dans l'adultère est sous l'influence d'un esprit d'adultère. Un homme qui tue, qui commet des meurtres, est sous l'influence d'un esprit meurtrier. Et Dieu nous appelle à, quand nous allons combattre, à distinguer ces choses. Mon frère, ma sœur, au moment où nous sommes en train de finir ce message d'aujourd'hui, ma question est, êtes-vous un meurtrier dans votre cœur? Combien d'hommes et de femmes avez-vous tués? Aujourd'hui, Christ nous donne la possibilité de prendre un nouveau départ et de guérir les plaies, je veux même dire de ressusciter les personnes que nous avons psychologiquement, spirituellement tuées. C'est possible, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Mais pour cela, vous devez prendre conscience que vous avez mal agi. Si c'est cela votre désir de demander pardon, de prendre un nouveau départ, de commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ, c'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, me voici devant toi. Je te demande pardon. Pardon parce que j'ai été un meurtrier. Pardon parce que j'ai blessé, j'ai tué. Pardon parce que j'ai détruit la vie des autres. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Je m'engage à prendre un nouveau départ aujourd'hui, de ne plus être un meurtrier dans mon cœur, de ne plus être un meurtrier dans mes pensées, de ne plus être un meurtrier par mes gestes, mais d'être un propagateur de la vie éternelle. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que Dieu vous a entendu.
Amen.
Nous nous retrouvons dans quelques instants après cette page publicitaire.
Pour votre croissance, votre édification ou votre connaissance spirituelle, découvrez l'émission « Venez à Jésus ». Écoutez et téléchargez gratuitement l'émission « Venez à Jésus » sur le site www.jesuspourtous.org. Retrouvez gratuitement les différents thèmes abordés comme l'identité du croyant en Christ, la seconde venue de Jésus, la mort de Christ et bien d'autres enregistrements. Rendez-vous sur www.jesuspourtous.org, www.jesuspourtous.org.
Bon retour à l'émission Venez à Jésus. Je suis Raphaël Mambou et je suis toujours en compagnie de Pacheli Mabedi. Vous avez écouté ce thème sur « Tu ne commettras point de mort », c'est une grâce. Comme je le disais, comme on l'a dit dans les émissions, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal, pour vous choquer, pour vous détruire, mais pour vous faire connaître la voie de Dieu, pour vous faire connaître la vérité de Dieu. Et je crois au plus profond, exploite ce thème de façon à ce que Dieu puisse parler avec vous. Et notre prière est que vous puissiez nous retrouver la fois prochaine, toujours sur le même thème. Pacheli ?
Ce sera avec un grand plaisir.
Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder à la fois prochaine, toujours sur le même thème. Amen.
À très bientôt.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.